Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller. Chapitre 13. Au village, les langues se délient. Lianceville sort de sa torpeur estivale. Le trop-plein de rancœur, de jalousie, de bêtises déborde. Les enquêteurs sont confrontés aux révélations les plus abjectes. Il n'est pas facile de faire le tri dans la somme des énormités dénoncées. Le temps fait son œuvre, mais pas dans le sens admis généralement. Les gendarmes s'attendaient à un mur de silence. Ils se retrouvent face à des moulins à paroles. Chacun y va de sa vérité. Le problème, c'est que cette vérité est multiple et pas forcément partagée. Après les premières investigations de la cellule spécialisée, Gilles décide de changer de stratégie. Les villageois crache un épais venin en direction des époux Bolton. Heureusement, le lieutenant n'est pas dupe de la situation. Un certain nombre d'interrogations voient le jour. Une réunion de tous les membres de la cellule est indispensable. L'objectivité doit être le maître mot dans la poursuite de l'enquête. Il interroge ses collaborateurs sur les raisons d'un tel acharnement à dénigrer les époux Bolton. Pas besoin de longues démonstrations. Les motifs sautent aux yeux. Il y a tout d'abord l'étranger. Ils ne sont pas du pays. De surcroît, ils sont anglais. Leur réussite financière est trop insolente aux yeux des natifs du bocage. Ils travaillent beaucoup alors que la région est fortement touchée par le chômage. Leurs mœurs, qui sont à vérifier, posent aussi problème aux paroissiens. Ici, l'ancrage religieux et séculaire. Tous ces sentiments rentrés sont là. Aux dernières élections, les partis extrémistes de droite sont arrivés en tête devant les candidats des formations politiques traditionnelles, reflétant un état d'esprit et une crainte. La peur de l'étranger est la base de l'équation. Ajoutez un ingrédient sulfureux et vous épicez fortement le mets. Voilà ce qui est en train de se produire à Lianceville. Il s'agira plus de faire des recoupements plutôt que d'interroger les gens sur les Bolton. Le but de l'entretien est d'obtenir des révélations sur cette famille. Il ne faut pas que les interlocuteurs le perçoivent. Gilles et ses collègues ont bien compris l'enjeu. Il faut éviter le lynchage systématique. Ce sera toute la subtilité des propos qui fera la différence. À nous d'être psychologues, dit-il. Maintenant, il va les auditionner. Il interrogera Jack et Éléonore séparément. Il compte opérer par surprise et ne pas leur laisser le temps d'organiser leurs réponses. S'ils sont impliqués dans la disparition de Benjamin, ils ont été très forts jusqu'à présent. La suite des opérations doit donc être menée avec précision et discrétion. Il attend avec curiosité leurs explications. Afin de ne pas perturber la petite Virginia, les gendarmes vont chercher sa mère juste après le début de la classe de l'après-midi. Surprise, elle ne leur oppose pas de résistance. Arrivée à la gendarmerie, elle est dirigée vers une salle pour interrogatoire. Gilles et Ango lui font face. Elle ne panique pas. Son assurance ne passe pas inaperçue du responsable de cellule. Le questionnement débute par la routine, l'état civil, la profession, les croyances, pour se mettre en train. Elle répond à chaque question sans l'ombre d'une hésitation, avec son accent british inimitable. Son comportement est celui d'une personne bien dans sa peau et qui n'a rien à se reprocher. Lorsque le prénom de Benjamin est avancé, elle a un soupir de peine. Gilles, rompu aux interrogatoires, croit à la sincérité de son interlocutrice. Il l'a informée que ses déclarations seraient enregistrées. La jeune femme n'a fait aucun commentaire. Lorsqu'il a stoppé l'interrogatoire pour changer la cassette du magnétophone, elle a simplement ajouté « C'est votre travail ». Il est sorti 5 minutes, la laissant avec son collègue. Il profite de cet entracte pour envoyer 2 gendarmes à l'agence de Jack Bolton. Il faut l'amener ici avant que son épouse soit reconduite à son domicile. Ils veulent éviter tout contact téléphonique ou physique. Gilles a volontairement occulté la condamnation de Jack. Léonore ne l'a pas abordé non plus. C'est un joker qu'il faudra sortir de la manche au bon moment, pense-t-il. Il n'en tire aucune conclusion. Compte tenu de sa coopération franche et directe, ce n'est pas une omission. Elle s'est contentée de répondre aux questions. Sur le sujet, il n'y en a pas eu. La prise de congé est souriante et polie. Elle trouve normal que les services français de gendarmerie poussent plus loin leur recherche de la vérité. Elle n'en prend pas ombrage. Les enquêteurs ont intercepté l'époux au retour d'une visite chez un client. Il était près de 16h30. Ils lui ont demandé de préciser que l'agence était fermée pour aujourd'hui. Il s'exécute sans trop s'inquiéter. Habituellement, la secrétaire ferme l'agence à 18h. Sa collaboratrice travaillant à temps partiel, c'est Jack qui ferme le lundi. Il monte dans le véhicule de gendarmerie, direction la brigade. Comme un balai bien ordonné, Éléonore n'est plus dans les locaux. Elle a été raccompagnée afin qu'elle soit chez elle lorsque sa fille rentrera de l'école. Gilles tenait beaucoup à cet aspect des choses. Jack Bolton est introduit dans la pièce qu'occupait son épouse quelques instants auparavant. Le lieutenant avance de quelques pas à sa rencontre, s'excuse par avance des désagréments, mais il a besoin de quelques renseignements complémentaires dans le cadre de la disparition de Benjamin. Malgré les précautions prises pour qu'il ne puisse rencontrer son épouse ou se douter qu'elle ait été auditionnée, ils n'ont pas été suffisamment vigilants. Jack Bolton s'adresse au lieutenant et à son subordonné. « Messieurs, ma femme est passée ici il y a quelques minutes, j'en suis certain. » Avant de répondre, le lieutenant scrute la pièce. Il n'y a rien qui puisse laisser penser qu'elle soit passée par là. « Allons, messieurs, je la connais trop bien pour vous raconter des sornettes. » « En effet, » répond Gilles, « elle était ici, nous l'avons raccompagnée chez vous. » Il n'a pas trouvé la raison qui permet à Jack Bolton d'être aussi affirmatif. L'homme le fixe d'un air goguenard. Il est content d'avoir mis en défaut des spécialistes. Il leur déclare qu'il ne s'agit pas d'un ruban oublié ni d'une épingle à cheveux. Il a tout simplement un excellent odorat qui lui permet de reconnaître entre mille le parfum délicat qu'elle portait. Gilles, aussi fair-play qu'un Anglais qui vient de gagner un match, applaudit. « Bravo, monsieur Bolton, c'est bien joué. Si vous le voulez bien, nous allons passer à des choses plus sérieuses. » Jack répond qu'il est à leur disposition. Il parle la langue française parfaitement, presque sans accent. Lors des premières questions, Gilles comprend pourquoi l'homme maîtrise aussi bien notre langue. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, sa branche maternelle est française. Ensuite, il a fait des études de commerce en France durant 4 ans. À l'image de son épouse, il est à l'aise dans ses réponses et ne s'embrouille pas. Chaque explication a le mérite d'être claire. Gilles continue l'interrogatoire. À aucun moment, Jack n'a un signe d'impatience ou d'énervement. Il possède un excellent self-control. Le lieutenant juge qu'il n'est pas opportun, à ce stade de l'enquête, de faire état de la condamnation à caractère sexuel. Il le fera dans un deuxième temps, lorsqu'il aura plus d'éléments à se mettre sous la dent. Il ne faut pas épuiser toutes les munitions la première fois. Sinon, si le gibier s'en sortait aujourd'hui, ce serait fini, il serait hors course pour la suite. L'audition des époux n'a pas été inutile. La cellule va avoir à travailler sur leur déclaration. Ils ont un couple d'amis qui s'avère fiché par Scolandia. Cette information a été communiquée suite à la demande de routine concernant la famille Flaherty. Gilles découvre que Jack et Éléonore fréquentent un ancien terroriste de l'IRA. Il y a du louche dans la vie de ces gens-là. L'examen du cas Bolton ne fait que commencer. C'est décidé. Il va déclencher une opération d'envergure. Il s'agira de procéder à des vérifications approfondies concernant les familles Bolton et Flaherty. Le juge a signé l'ordre de perquisition dans les deux propriétés. Pour cette action, l'appui des gendarmes de la brigade locale est indispensable. Ils sont donc quatre à accueillir Jack Bolton à l'agence immobilière. Virginia est partie pour la journée avec le club d'équitation local. La fouille de la maison se déroule uniquement en présence d'Éléonore. Le lieutenant se partage entre les deux opérations. Il fait la navette avec la propriété des Flaherty au village voisin. Jack est à nouveau interrogé à la gendarmerie. Buteau et Ango questionnent le suspect. L'homme est moins coopératif qu'à l'audition précédente. Il est excédé par la tournure des événements et décide de ne répondre qu'au responsable de l'enquête. Ce dernier est informé par téléphone des complications de l'interrogatoire. Jack sait que le refus de répondre aux questions sera interprété comme une forme de culpabilité ou comme s'il avait quelque chose à cacher. Mais trop c'est trop. De plus, aujourd'hui il avait trois rendez-vous importants à honorer. L'impact de son absence risque d'être catastrophique. La maison de Jeanne et Liam Flaherty ressemble à s'y méprendre à une demeure de la campagne anglaise. La pelouse, les fleurs, la toiture en chaume donnent un cachet extraordinaire au lieu. Ils sont au travail lorsque Gilles actionne la cloche en cuivre. Jeanne stoppe ses gammes sur son piano, puis ouvre la lourde porte d'entrée en chêne massif. Il l'a vue arriver à travers le vitrail disposé sur le côté gauche de la porte. Les présentations sont rapides. Elle appelle son mari. Monsieur Flaherty se présente à son tour. L'effet de surprise est total. Ces gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les gendarmes n'ont pas découvert grand-chose, hormis un poster dans un salon. L'image représente un homme nu, de dos. Sur ses fesses sont écrits quatre mots. God save the Queen. Le reste de l'image est très flou, ce qui empêche de situer l'environnement. En revanche, le sol semble être de la pelouse. Ils découvrent aussi trois photos de couples nus. Ils reconnaissent les époux Bolton, Flaherty, une femme et un homme inconnus. Gilles laisse ses collègues continuer leur perquisition et se dirige vers Lianceville. Il s'arrête à la gendarmerie pour rendre une petite visite à Jack. Le salut est glacial. Il demande à son interlocuteur s'il a compris ce qu'on lui reproche. Bolton s'emporte un peu, mais se reprend rapidement. Ce dernier demande à l'enquêteur de lui apporter des faits concrets sur lesquels il pourra s'expliquer. Le lieutenant joue carte sur table. Il veut des explications sur ses penchants sexuels. L'homme est comme sonné. Puis, il part d'un rire qui, à ce moment précis, déconcerte l'enquêteur. Pourquoi ce rire? Jack lui répond qu'il est un homme normal, avec des pulsions normales, qui l'amène à faire l'amour avec sa femme plusieurs fois par semaine et qu'il est très heureux ainsi. Gilles informe Jack de la perquisition à son domicile ainsi qu'à celui des Flaherty. Bolton lâche que c'est le comble de l'absurdité. Les deux hommes ne se comprennent plus. Gilles lui demande s'il est normal de trouver des photos de couples nus chez les Flaherty. Jack fronce le sourcil. Il confirme que les deux couples aiment beaucoup faire la fête. Lors de l'anniversaire d'Éléonore, pour lui faire une surprise, Jack avait demandé à ses invités de se déguiser sur le thème de la folie. En fin de soirée, l'alcool aidant, des paris ont été faits, et ceux qui ont perdu ont dû honorer leur gage. C'est ainsi que des couples ont dû faire un striptease. Il n'y a aucun mal à se comporter ainsi dans un lieu privé entre adultes, reprend Jack. Gilles lui parle du poster de l'homme nu exposé dans le salon. Jack repart dans un grand fou rire. Il s'excuse. Il s'agit de moi. Cette photo a fait l'objet d'un stupide pari que j'ai gagné. Mais il m'a coûté beaucoup, encore aujourd'hui. Il lui demande de s'expliquer un peu plus. Bolton révèle la raison de sa condamnation en Angleterre. Il était striker et, par pari stupide, s'est exhibé nu sur le central de Wimbledon pendant la finale dames. Le monde entier ayant vu son anatomie, il a été poursuivi et condamné pour offense à la reine. Ce n'est donc pas un délinquant sexuel. Liam Flaherty est un ami de cette époque-là. Ils s'étaient perdus de vue. Ils se sont retrouvés grâce au travail de Jack. C'est lui qui a vendu la propriété à ses amis irlandais. Gilles est un peu déstabilisé par ces révélations. Il reste quand même à attendre la fin des deux perquisitions et à interroger les Flaherty. Il déclare à M. Bolton qu'une décision sera prise à l'issue des visites en cours chez lui et chez ses amis. Jack fait une grimace, mais ne parle plus. Il pense avoir dit tout ce qu'il savait et tout ce que le lieutenant souhaitait découvrir. Concernant Benjamin, il ne peut en dire plus qu'au premier jour. La perquisition vient de se terminer chez le couple Flaherty. Ils sont assis sur un canapé, prostrés. Gilles demande à Liam Flaherty de le suivre dans une pièce à l'autre extrémité de la maison. Les deux hommes se retrouvent dans le bureau de Liam. Ce dernier le remercie de ne pas avoir trop dérangé l'ordonnancement des lieux. Gilles demande au suspect de lui parler de lui. Liam Flaherty s'exécute sans problème. Il confirme l'amitié ancienne avec Jack Bolton. C'était l'époque où ils étaient étudiants. L'épisode de Wimbledon est évoqué. Il regrette pour son ami la tournure judiciaire, mais ils ont tous vécu ce moment comme une énorme blague de potache. Il lui demande de s'exprimer sur le conflit en Irlande. La réponse de Liam Flaherty est surprenante. Il répond que son ami Jack a vécu Wimbledon et ses affres. Eh bien, l'Irlande est mon Wimbledon. J'ai vécu autant d'ennuis au sujet de l'Irlande que mon ami au sujet du central de Wimbledon. Il patauge dans le discours de son interlocuteur. Il a besoin de réponses plus claires. Liam Flaherty est un honorable citoyen irlandais. Il a été confondu avec Liam Flaherty, recherché par Scotland Yard pour des attentats. Depuis plus de 10 ans, Liam est périodiquement harcelé par la police anglaise et les services secrets. Sa seule faute est d'avoir un prénom et un nom proche de l'homme recherché. La cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, est la date de naissance du militant irlandais. Ils sont nés le même jour de la même année. Mauvaise pioche. L'interrogatoire de Jeanne confirme les déclarations faites par son mari. Il s'agit de gens normaux. Ils aiment trop la vie. Aux questions concernant Benjamin, elle essuie une larme. Elle le connaissait pour l'avoir rencontré chez les Bolton. Il jouait avec Virginia. Elle lui confie qu'elle est enceinte et que le drame de la famille Léchin la bouleverse beaucoup. Une future mère ne pouvant être insensible à un tel malheur. Il remercie le couple pour sa patience et s'excuse des désagréments causés par cette intrusion dans leur vie privée. Liam répond qu'une enquête ne vogue pas toujours sur des eaux calmes. Il faut parfois engager l'embarcation dans des méandres et des bras morts. Alors, lorsque l'on fait fausse route, il ne reste qu'à rebrousser chemin. Gilles apprécie la métaphore. Les gendarmes quittent la famille Flaherty. Il fait un petit détour par la gendarmerie. Il veut vérifier immédiatement un point. L'éclaircissement ne se fait pas attendre. La consultation du fichier d'Interpol corrobore les déclarations de Liam Flaherty. L'activiste irlandais recherché se nomme bien Liam Flaherty. Voilà un compatriote bien gênant pour les Flaherty, se dit l'enquêteur. La seule découverte au domicile des époux Bolton est un t-shirt avec le prénom de Benjamin floqué dans le dos. Et Léonore prétend que le garçonnet en a fait cadeau à Virginia. Elle s'est assurée qu'il s'agissait bien d'un cadeau. Elle a contacté Aurélie à l'époque, il y a un peu plus de 6 mois. Il emporte la pièce à conviction, a présenté le vêtement à Aurélie, qui confirme le cadeau de son fils à sa copine. Il est perturbé, il croyait tenir une bonne piste. Malheureusement, il s'agit d'un gros fiasco. Il a déjà présenté ses excuses auprès des époux Flaherty. Il va les réitérer auprès des Bolton. Jack n'a pas desserré les dents pendant le trajet jusqu'à sa demeure. Le lieutenant a choisi de s'expliquer au domicile des ex-suspects. Sa sincérité paie. Le courroux a laissé sa place à la compréhension. Éléonore lui offre un café. Jack a compris que si un malheur semblable se produisait avec Virginia, il voudrait que les investigations les plus improbables soient menées. Grâce à sa fille, il admet l'erreur du gendarme. Gilles a téléphoné à Léo Sagol, le lendemain soir de la perquisition chez les Bolton et les Flaherty. À ce stade de l'enquête, il est dans le brouillard absolu. L'image de Benjamin, omniprésente pendant des semaines, a tendance à s'estomper. Et toujours pas de piste fiable. Malgré un important déploiement de moyens et des investigations dans de nombreuses directions, il est incapable d'apporter la moindre réponse à l'absence de l'enfant. Sagol le connaît trop bien pour ne pas déceler de la détresse dans les intonations de son ami et ancien subordonné. Ce dernier lui raconte brièvement ses malheurs. Il tente de lui remonter le moral, mais voit bien que le mal est solidement ancré et qu'il faudra plus de 3 mots pour exorciser le bougre. Pour noyer le poisson, les deux hommes parlent de tout et de rien, de ce qui fait le sel de la vie. Gilles se relâche un peu, Sagol plaisante pour le décontracter encore plus. Après quelques minutes de conversation, il retrouve l'homme qu'il a quitté il y a peu. Sagol fait part de ses difficultés à obtenir des moyens appropriés à des services d'investigation modernes. Malgré l'éloignement du terrain, ses soucis sont semblables à ceux de Gilles. Et en plus, il y a ce fil invisible qui les réunit. Ce fil qui est celui de l'amour du travail bien fait. Il s'ajoute à d'autres pour former une corde aussi solide que ce lien d'amitié qui est leur fil d'Ariane. Sagol a prévu de passer le week-end avec son épouse au Cap Fréhel. Il lui propose de se joindre à eux. Il refuse l'invitation. Il ne veut pas déranger. Sagol hausse le ton. Il dit qu'il ne faut pas tergiverser. Juliette sera vexée si jamais elle apprend son refus. Il ne se fait pas prier davantage. C'est d'accord. Il reste à préciser les modalités pour ces 2 journées bretonnes. Les époux le prennent au passage le vendredi en fin d'après-midi. Sagol préférant quitter la région parisienne avant le rush de fin de semaine. Ils sont heureux de se revoir. C'est comme s'ils s'étaient séparés la veille. Juliette est au volant. Son époux aime lui laisser le soin de conduire. Pendant ce temps, il admire le décor où il dort. Aujourd'hui, il converse avec son collègue. Les paysages de bord de mer se succèdent au soleil couchant. La route qui longe les falaises est d'une luminosité inaccoutumée. On ne trouve ces teintes qu'à des périodes précises de l'année. La conjonction de plusieurs phénomènes permet de savourer pleinement ces couleurs étonnantes. On dirait qu'un peintre a mélangé le ciel, l'eau et la lande avec quelques touches subtiles pour poser quelques rochers sur sa toile. Les amis dissertent sur la beauté de Dame Nature. Ils sont conscients de vivre des instants d'une rare beauté. Ils sont d'accord pour une escale à Cancale avant de rejoindre l'hôtel. Les huîtres, dégustées autour d'une bonne bouteille, il n'y a rien de mieux. Sagol a pris ses renseignements avant de partir. Il a un gastronome averti parmi ses collègues. Il se dirige vers un établissement qui ne paie pas de mine. La façade est quelconque, mais à l'intérieur, le décor est chaleureux. Le mélange des vieilles pierres et du bois est réussi. Ce sont des répliques des lampes de cuisine de nos grands-mères qui éclairent les tables rondes. Les convives privilégient les produits locaux. Les huîtres et le plateau de fruits de mer sont retenus avec l'assentiment général. Juliette fait un effort pour les huîtres, mais celles de Cancale sont réputées. Alors elle se laisse tenter. Il est presque 22 heures lorsque le trio se présente à l'hôtel des Druides. Ils avaient prévenu qu'ils arriveraient tard. Une enveloppe posée sur le comptoir de la réception les attend. À l'intérieur, 2 clés ainsi que quelques lignes griffonnées sur un billet à en-tête de l'établissement. Un petit mot de bienvenue avec les horaires pour le petit déjeuner. Le patron de l'hôtel a pris soin de préciser la météo du lendemain, ainsi que l'heure des marées. Cette initiative mérite d'être soulignée, commente Sagol. Après s'être souhaité une bonne nuit, les amis regagnent leur chambre. Le style scandinave ajoute au confort des lieux. Gilles s'endort comme un nouveau-né. Il se sent bien. Les soucis de l'enquête passent en arrière-plan. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, il est le premier dans la salle. Le propriétaire salue le nouveau venu, demande à son hôte s'il a bien dormi. C'est le cas. Le tenancier fait un petit commentaire et passe derrière un comptoir. Il manie des disques compacts et enfin choisit une galette qu'il introduit dans le lecteur de la chaîne disposée derrière lui. Une polonaise de Chopin s'élève. Ce que le client ne sait pas, c'est que le petit déjeuner se passe en musique. Ce choix musical n'est pas anodin. Il est dicté par le profil et l'humeur du client. Le patron décide du programme suivant sa perception des gens, et ça marche. Rares sont ceux qui repartent déçus d'un tel accueil. Il est là depuis 5 bonnes minutes quand les époux Sagol font leur apparition. Il fait la bise à Juliette et salue son ami Léo. Gilles est curieux de la sélection musicale que fera l'homme pour l'arrivée du couple. Ce sera une sonate pour piano et violoncelle de Beethoven. Cet endroit est paradisiaque, déclare Juliette. Pour le moins original, réplique son mari. Unique, rétorque Gilles. Thé, café et petits pains grillés au beurre salé sont au menu de ce début de journée. Les amis décident de passer la journée sur la lande. La météo est clémente, hormis un léger vent, il fera beau. Quelques heures de marche, ça vous remet dans le bon sens, lance Sagol. Les deux autres acquiescent. La concertation est brève. Il est décidé d'un commun accord de faire des provisions à l'épicerie du village voisin. Le tout dans les sacs à dos et direction la lande du Cap Fréhel. Ils envisagent de parcourir une grande partie du Cap jusqu'au fort Lalatte, qui est un endroit chargé d'histoire. Chacun prend des victuailles et de la boisson. En avant pour l'aventure. Les oiseaux marins font une sarabande assourdissante. Ils suivent un bateau de pêche, guettent avec impatience et gourmandise le moment où les marins rejettent les déchets à l'eau. Plus au large, croisent les vieux gréements, un rassemblement pour les nostalgiques de la marine à voile, où la passion est le moteur qui anime quelques poignées d'amoureux fous d'une époque révolue. Le scintillement du soleil sur la mer agitée lance des reflets argentés. C'est au milieu de cette lumière que claquent les voiles. Ils respirent à plein poumon le bonheur de jouir de cet écrin fantastique. Musardent sur le sentier qui s'étire au milieu des bruyères pour s'approcher dangereusement des falaises. Les mouettes curieuses sont attirées et parfois rasent les têtes. Les rochers sombres luisent à marée basse. Quelques téméraires s'essaient à la cueillette des coquillages. Pendant que Juliette s'est arrêtée pour examiner de plus près les vieux voiliers à la jumelle, les deux hommes dissertent quelques mètres en avant. Gilles récapitule l'affaire de la disparition de Benjamin. Sagol l'écoute attentivement, sans jamais l'interrompre, et au fur et à mesure fait sa synthèse. Il ne voit pas ce qu'il aurait fait de mieux en fonction des éléments que son collègue lui communique. L'enfant ayant disparu depuis plus de 100 jours, ils sont persuadés qu'il est mort. « Oui, mais pourquoi » demande-t-il à Léo. Les deux hommes reviennent sur les mêmes conclusions qui amènent aux mêmes hypothèses. C'est soit un maniaque sexuel, soit un proche de la famille. Ils sont encore en discussion lorsque Juliette les rejoint. Elle décide de faire comme si de rien n'était. Les deux amis, ne voulant pas la polluer avec leurs histoires de gendarmes, entament une discussion sur le pays. Le Cap Fréhel déploie tout son charme sauvage pour qui sait l'appréhender. La conversation fait du bien à Gilles. Il se sent compris. Sagol lui a fait admettre que sa boulette envers les époux Bolton et Flaherty n'en était pas une. C'est le sort de l'enfant qui dictait l'intervention. La piste n'était pas bonne, c'est ainsi. On ne vise pas toujours juste. Au loin, majestueux, apparaît le fort de la Latte. Chacun fait travailler son imaginaire à la vue de cet édifice. Certains voient des corsaires, d'autres des seigneurs prisonniers. Les pierres ont l'épaisseur des secrets qu'elles ont abrités. Le septième art ne s'y est pas trompé. Le film le plus célèbre a été tourné avec Tony Curtis et Kirk Douglas, les Vikings. Les trois comparses continuent leur balade vers l'anse des Sévigné. Ils veulent visiter le fort et voir le doigt de Gargantua, un menhir situé vers Anse. Ils mangeront sur le chemin du retour. L'accès au fort est condamné pour travaux. C'est frustrant. Mais le paysage vaut le détour à lui tout seul. Il n'y a plus un bateau à l'horizon. Les oiseaux se sont raréfiés. Avec la fermeture du fort, les touristes se sont dirigés vers d'autres lieux. Hormis le vent, la lande est silencieuse. Les amis ont opté pour une halte à l'abri dans l'anse. Avec le soleil et protégé de la brise, la température est agréable. Ils ont trouvé quelques rochers pour s'asseoir et se répandre en toute quiétude.